RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, la 13e étape du Tour de France aujourd'hui entre Saint-Etienne et Champs-Rousse, première grande étape des Alpes, il y en aura deux cette année, celle d'aujourd'hui est la montée vers Champs-Rousse, celle de demain est la montée vers Risoul. Nous prenons l'antenne au moment même où le peloton attaque les premières rampes de la première difficulté du jour, en l'occurrence le col de Palaki. On va dire bonjour à tout le monde et on rentre vite dans la course. Cyril Guimard est avec nous, bonjour Cyril.
Oui, bonjour, bonjour pour cette première étape alpestre.
Georges Quirino sur la moto est également posté aux avant-postes. Salut Georges.
Bonjour, bonjour, les Alpes sont devant nous messieurs.
Très bien, et Frédéric Adam avec moi à mes côtés pour vivre cette première grande étape des Alpes. Salut Fred.
Hello, hello.
60 km de l'arrivée, mais les premières rampes, le premier col de ce Tour de France 2014 dans les Alpes, le col de Palaki, col qui n'a jamais été gravi par les coureurs du Tour de France dans sa longue histoire. On va tout de suite faire un point sur la course, car déjà, nous sommes dans la bagarre, le top course.
La première des deux grandes difficultés de la journée, le col de Palaki avant la montée finale hors catégorie vers Champs-Rousse. Il reste un peu plus de 60 km à parcourir et dans cette première étape alpestre, il y a deux coureurs qui sont en train de fausser compagnie à l'échappée du jour. Il s'agissait tout à l'heure de l'Italien Daniel Oss et d'un Tchèque Durasek. Derrière, il y en a partout parce qu'on a effectivement attaqué les deux premiers kilomètres de cet inédit col de Palaki. Attention, des passages à plus de 10% dans quelques instants. Un col en palier, on rappelle, dans ce groupe de tête, la présence des Français Rudy Mollard pour Cofidis, Brice Feillu chez Bretagne Séchée et Blaise Cadry, le vainqueur de l'étape de Gérardmer pour Brice Feillu chez Bretagne Séchée. C'est déjà fini, le groupe de tête est en train d'exploser, le groupe qui ne compte qu'une petite minute d'avance sur un peloton qui chasse très très fort.
Oui, ça chasse très très fort, une minute d'avance, autant dire que l'échappée est quasiment condamnée. Cyril, comment expliquer que le peloton n'ait laissé que très peu de place finalement aujourd'hui à l'échappée? Ça veut dire que la grande bagarre va avoir lieu dans quelques minutes.
Alors en fait la poursuite derrière l'échappée a été organisée par l'équipe de Rodriguez. En fait, Rodriguez veut tout simplement faire la gagne de l'étape. Et pour l'instant, tout ce qui s'est déroulé jusqu'au pied de ce col l'est en fonction de la victoire d'étape, mais pas pour le classement général. Mais le classement général pourrait quand même subir l'influence de ce regroupement relativement tôt, c'est-à-dire au pied de cette difficulté du col de Palaki. Un col sûrement plus compliqué, plus difficile qu'il n'y paraît.
Voilà. Qui dit victoire d'étape dit classement de la montagne, parce que Rodriguez qui a fait rouler ses Katusha et Thomas Vauclair qui est en train de mettre ses Europcar à la planche au pied du col sont concernés, sont en tête de ce classement de la montagne. C'est l'un des enjeux du jour.
Et il y a déjà des attardés à l'arrière du peloton. C'est le cas du champion d'Allemagne André Greipel, le gorille de Rostock. Le gorille n'aime pas la montagne. On le savait. Celui qui aime la montagne, c'est Georges sur la moto RMC. Georges qui va nous faire une petite carte postale. Nous sommes dans les Alpes. Le premier col de ces Alpes.
À la rencontre de vos régions avec ERDF. ERDF et l'électricité vient à vous.
Un magnifique paysage, Georges, et des températures qui vont faiblir parce qu'il faisait très chaud jusqu'à présent dans la plaine.
Exactement, alors j'ai pas Météo France avec moi, mais j'ai Météo Marco qui a sa température sur la moto, 34,5 degrés, voire 35 degrés, c'est les températures que l'on a en ce moment. Il n'y a pas un nuage au-dessus de nous, un grand soleil et une fournaise pour l'instant hein. Quand on est vraiment au niveau de la chaussée, on est dans le col de Palaki depuis quelques instants, on est au milieu des montagnes et Christophe, ça explose devant nous là hein. Il y a Blaise Cadry qui est en train de s'envoler, le coureur de la formation AG2R mondiale, avec seulement Yann Bakelants, le Belge qui arrive à suivre sa roue, démarqué et lâché. Rudy Mollard est lâché. C'est vraiment Blaise Cadry, déjà vainqueur à Gérardmer, qui est en train d'essayer de continuer à être devant malgré le retour du peloton. Cadry avec derrière lui Bakelants. Il relance le jeune coureur de la formation AG2R mondiale. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a encore vidé énormément de bidons sur les visages. On a terminé beaucoup de bidons également bu par les coureurs. La chaleur sera une donnée très importante aujourd'hui dans ce col de Palaki, très chaud, avec ses lacets qui continuent, mais également tout à l'heure dans la montée vers Champs-Rousse. Belkadri est en forme, il nous le montre devant nous.
Il est en forme, Cyril Belkadri, il est en forme. On se souvient, Fred le disait il y a quelques minutes, qu'il avait déjà remporté la première étape de montagne. C'était à l'arrivée à Gérardmer dans les Vosges il y a de cela quelques jours. Mais on est quand même étonné de le voir s'échapper. Alors tu vas nous expliquer pourquoi. Alors que derrière, il y a quand même ces deux leaders au classement général, en l'occurrence Jean-Christophe Perrault et Romain Bardet, qui ont des ambitions aujourd'hui. Alors pourquoi s'échapper? Pour servir de rampe de lancement ou pour tenter le coup tout seul?
Non, non, c'est un relais. Il est parti en émissaire, Belkadri, lui qui a déjà décroché ses lauriers il y a 5 jours, effectivement, sous la pluie et dans le froid de Gérardmer. Cette fois, les conditions sont opposées, mais il adore ça. Le chaud, Belkadri, lui, l'enfant du sud-ouest, le Toulousain né à Bordeaux, Belkadri, baroudeur, grimpeur, coureur de la très en forme équipe AG2R La Mondiale, qui, on le rappelle, domine le classement par équipe de ce Tour de France. Kadri, qui était très loin au général ce matin à 1h20, mais dans cette équipe, effectivement, au classement général, on a deux co-leaders en la personne de Romain Bardet, quatrième du général et maillot blanc de meilleur jeune, et Jean-Christophe Perrault, septième du général, à moins de 4 minutes du maillot jaune Nibali. C'est parfaitement joué tactiquement de la part de cette équipe AG2R La Mondiale, qui a plusieurs atouts. Il devrait être, selon toute vraisemblance, d'un secours à Romain Bardet. En tout cas, c'était le plan. Peut-être que la chasse des Katiusha et Europcar va un petit peu changer la donne toutefois.
Bon, voilà, c'était une question pour Cyril, mais tu as vu, aujourd'hui, notre en montagne, Fred a envie de croquer, hein, monsieur le druide. Hein.
j'avais entendu Fred.
Non, non, mais c'est pareil, les analyses sont aussi pertinentes. Hein,
attention, ça bouge derrière, à l'avant du peloton, avec Jérôme Pinault. Je croque aujourd'hui, j'en peux plus.
C'est ma fête, la sieste. Ah, c'est la Saint-Fred.
Ah, c'est pour moi aujourd'hui. Jérôme Pinault est en train de sortir du peloton à 1 minute 20 de la tête de course, toujours occupé par Belkadri. Il vient de fausser compagnie à une avant-garde du peloton, toujours menée par un coureur de l'équipe Europcar, avec dans sa roue les Astana du maillot jaune Nibali.
Alors Cyril, est-ce que c'est plutôt bon signe pour la suite de cette étape, et notamment pour une éventuelle grande bagarre, le fait que les AG2R aient mis en place une stratégie aujourd'hui comme ça, avec Kadri qui part et qui servira probablement de rampe de lancement?
Oui, c'est une bonne stratégie, sauf qu'il aurait été souhaitable que cet échappé arrive avec 4 ou 5 minutes, dans la mesure où ils sont arrivés au pied avec à peine une minute d'avance. La possibilité de faire un relais sur une attaque est pratiquement n'existe plus, dans la mesure où dès que ça va attaquer derrière, on va revenir sur Belkadri et qu'il ne pourra plus servir à rien du tout. L'objectif, effectivement, c'était d'arriver avec beaucoup plus d'avance, de façon à retrouver Belkadri, soit entre les deux cols, soit dans la montée du dernier, mais pas dans la montée du premier, où là, effectivement, la stratégie a été un petit peu éventée, surtout en grande partie, parce que Rodriguez a fait rouler, alors que l'écart était de plus de 4 minutes, il a fait rouler ses équipiers pour ramener à 1 minute 30.
Ouais, Cyril, attention, parce qu'il me semble que Thomas Vauclair est en difficulté, Fred.
Et oui, Thomas Vauclair qui, effectivement, a fait rouler ses coureurs de l'équipe Europcar. On subodorait une chasse au point de la part de Thomas Vauclair, deuxième du classement de la montagne, derrière Purito Rodriguez, le coureur espagnol qui avait terminé troisième du général l'an passé à Paris, et qui cette année, eh bien, s'est lancé dans la conquête de ce maillot à poids très réputé, très populaire. Thomas Vauclair ne jouera pas le classement de la montagne cette année.
Alors du coup, la tactique Europcar, parce qu'on le sait, tous les jours on se pose la question de comprendre cette tactique Europcar. Cyril, est-ce que la tactique était mise en place pour favoriser Thomas Vauclair, pour aller chercher des points de la montagne? Mais là, ça tombe à l'eau, cette histoire-là.
Cette histoire-là tombe à l'eau, donc il faudra trouver... On va pas essayer, puisqu'on ne comprend chaque jour, on ne comprend toujours pas les stratégies sportives.
Jean-René est venu te l'expliquer hier.
Oui, non, mais il m'a rien expliqué. Il a fait la grand-messe, et il est remonté même au projet pyramidal de Vendée-U. C'est pas ce qu'on lui demandait. On lui demandait de nous expliquer la stratégie. Il nous a expliqué sa stratégie en nous disant tout simplement, eh bien, nous, on est une équipe atypique. Donc, ils sont une équipe atypique. Donc, je pense que le deuxième volet de cette possible stratégie, c'est de préparer une attaque de Roland dans le col où nous sommes actuellement.
Voilà, Pierre Roland, dont on rappelle qu'il est, il est placé au général, hein, Fred. Je crois qu'il est, il est 15e. Il était 15e ce matin au général, Pierre Roland, et qu'il a l'habitude de remporter de grandes étapes de montagne sur le Tour de France, notamment dans les Alpes, Fred.
Oui, 15e à près de 7 minutes. C'est vrai qu'il avait effectué un beau rapproché l'autre jour dans cette étape de Mulhouse remportée par Tony Martin et où Tony Galopin avait endossé le maillot jaune. C'est vrai qu'il a déjà remporté une étape à la Toussuire, la fameuse étape de l'Alpe d'Huez en 2011 où Thomas Vauclair en jaune avait craqué sous les coups de boutoir d'Andy Schleck et de Contador, on s'en souvient. Pierre Roland qui a terminé 4e du dernier Giro. On se demandait s'il supporterait l'enchaînement Tour d'Italie, Tour de France. Pour l'instant, à plus que mi-tour, il est toujours dans le coup. Derrière, à l'arrière du peloton, Thomas Vauclair a craqué, son coéquipier de l'équipe Europcar, et j'ai l'impression qu'il n'est pas le seul puisque
Cyril Gauthier
vient de lâcher la rampe au même titre que Alexandre Pichot, le solide rouleur. Péric Kemener est en train de décrocher également. Vous voyez que Pierre Roland est bel et bien la carte maîtresse chez Europcar aujourd'hui.
Allez, on va retrouver la moto RMC, Georges Quirino qui se trouve au contact des hommes de tête. Il fait toujours très chaud, Georges, même si la température va baisser puisqu'on va monter. On est en train de monter même. Je crois que le col de Palaki n'est pas très haut, un peu plus de 1100 mètres, mais en tous les cas, ça fera du bien d'arriver là-haut. Georges.
Oui, on est à mi-ascension environ. Il reste encore quand même il reste encore une bonne dizaine de kilomètres. Attention parce que ça bouge devant. Là, on est un petit peu à l'ombre sous les arbres. Mais ils étaient deux avec Kadri et Bakelands. Ils ont vu revenir derrière eux l'Italien Alessandro De Marchi de la Cannondale. Il est revenu alors qu'il avait explosé tout à l'heure. Il est revenu au niveau de Kadri et Bakelands. Il vient de les déposer à l'instant. Accélération de De Marchi, l'Italien qui a allé une vingtaine de mètres d'avance. C'est Blaise Kadri qui tente de faire la chasse. On n'est pas sur les portions les plus difficiles de cette ascension, mais l'Italien là qui est bien grappit de plus en plus l'avance. Il a une quarantaine de mètres d'avance maintenant sur Kadri et Bakelands qui semble un petit peu marquer le pas, parti au train des Marquis avec les mains sur les cocottes. Il est une cinquantaine de mètres devant eux. Il fait quand même toujours aussi chaud là, Christophe, toujours 34 degrés environ dans cette ascension du col de Palaki.
Et oui, des Marquis qui lui aussi est en embuscade au classement de la montagne, 5e de ce classement. On se rappelle qu'il était échappé en compagnie de Tony Martin vers Mulhouse. L'Allemand l'avait déposé quand il avait voulu à 60 km de l'arrivée pour filer seul vers la victoire d'étape. De Marchi qui a remporté le classement de la montagne sur le dernier critérium du Dauphiné et qui il y a 2 ans s'était imposé à Risoul, là où la course fera étape demain. De Marchi, cet Italien de l'équipe Cannondale, n'est pas un inconnu et il aime la montagne et en particulier les Alpes.
Et il y a eu des gars à l'arrière du peloton avec notamment Michal Kwiatkowski qui était l'un des grands leaders de ce Tour de France et qui semble en difficulté dès les premières rampes de ce col de Palaki, Fred.
Oui, il ne jouera pas le classement général, effectivement. Celui qui avait terminé 11e du Tour l'an passé, qui avait longtemps porté le maillot blanc de meilleur jeune, Kwiatkowski, que l'on avait vu l'autre jour en direction de la planche des belles filles se lancer dans une attaque qui avait mis en danger le maillot jaune de Tony Galopin. On l'a vu également hier lancer le sprint pour Matteo Trentin, un sprint remporté, on vous le rappelle, par le Norvégien Christophe à Saint-Etienne. Kwiatkowski est clairement un équipier, l'un des équipiers de l'équipe Omega Pharma, mais n'est pas, clairement pas, le leader. Il ne peut pas tout faire. Ce brillant et jeune coureur qui en a fait beaucoup depuis le début de la saison, se mettant en évidence sur tous les types de terrain.
Un garçon sur lequel tu comptais énormément pour briller sur ce Tour de France, Cyril, et qui nous a déçus, il faut bien le dire, depuis le début de cette grande boucle.
Oui, il nous a déçus parce qu'on le voyait à un autre niveau, ce que nous avions vu l'an dernier, et depuis 2 ou 3 ans d'ailleurs, hein, parce que sa progression était constante. Nous l'avons vu être pratiquement dans les 3 meilleurs coureurs mondiaux dans les courses à étapes où il y avait de la montagne depuis le début de saison. Il faisait partie, on va dire, des 2 ou 3 outsiders derrière les 2 absents sur le tour aujourd'hui, Froome et Contador. Et puis il a explosé, j'ai envie de dire, il a explosé en plein vol. Non, il est, je pense, et ça rejoindra vraisemblablement l'analyse de d'autres spécialistes, qu'il a peut-être beaucoup trop couru en début de saison, soit en tant que leader sur les courses à étapes et puis en tant qu'équipier de l'X sur les Flandriennes mais également sur les Ardennaises. Un programme vraisemblablement beaucoup trop chargé pour ce jeune Polonais.
Décevant pour le classement général, mais tout de même lancé à l'attaque à plusieurs reprises depuis le début du tour.
Ouais, mais on l'attendait surtout pour général.
Il a choisi son créneau, il est dans son créneau.
Ouais, bah son créneau pour l'instant. l'instant le Mélouin.
C'est plutôt son credo
dans les tentatives de victoire d'étape. Allez, 55 km de l'arrivée, on fait rapidement un top course avant de passer la main pour quelques secondes. Fred, le top course.
Avec un homme seul en tête, c'est l'Italien De Marchi à 55 km de l'arrivée dans l'ascension de l'inédit col de Palacchi. De Marchi qui compte 15 secondes d'avance sur un duo Bakeland, c'est Kadri, le vainqueur de Gérardmer. Derrière, il y a des rescapés de l'échappée du jour, l'échappée matinale. 1 minute 20 d'avance pour l'homme de tête sur le groupe maillot jaune qui est en train de perdre de nombreux éléments à 55 km de l'arrivée.
Il est 15h23, vous êtes sur RMC, l'intégral tour. Nous sommes dans le premier col des Alpes de ce Tour de France 2014. On y revient dans un instant sur RMC.
RMC, intégral tour. RMC, intégral tour.
La première grande étape des Alpes au programme aujourd'hui de l'intégral Tour et du Tour de France. 13e étape entre Saint-Étienne et Chauroux, 197 km à parcourir. Il en reste 53 encore, mais nous sommes dans l'ascension de la première difficulté du jour, le col de Palacchi. Inédit sur le Tour de France, col de Palacchi que les coureurs du peloton gravissent en ce moment sous un soleil de plomb. On va refaire un point sur la course parce qu'elle évolue évidemment à tout instant lorsqu'on est en montagne. Fred, le top course.
RMC Top course.
53 km de l'arrivée, toujours un homme qui tente de faire cavalier seul, mais que c'est dur dans cette inédite et très raide côte de Palacchi. Il est italien, il porte le maillot de la Cannondale, l'italien Alessandro De Marchi. Donc il compte 45 secondes sur un duo composé du belge Yann Bakelands et de Blel Kadri, le vainqueur de l'étape de Gérardmer pour l'équipe AG2R La Mondiale. On a un homme intercalé, c'est le coureur de la formation Cofidis, le français Rudy Mollard. Et puis le peloton maillot jaune est à 1.40, un peloton qui perd régulièrement de nombreux coureurs. Il n'y a plus de sprinteurs évidemment dans ce premier col alpestre, plus de sprinteurs dans le peloton. On peut noter que Peter Sagan s'est fait lâcher, tout comme Michal Kwiatkowski, le polonais de l'équipe Omega Pharma. Tony Galopin est décroché, le champion de France Arnaud Démare. Tout cela n'est que logique. Cyril Gauthier, Thomas Vauclair, Jens Voigt, tous ces coureurs sont en train de former ce que les coureurs appellent le groupe Eto, loin à l'arrière de la course. On est à 53 km de l'arrivée. L'ascension du col de Palacchi se poursuit.
Voilà, et l'ascension qui se poursuit tranquillou pour le peloton, puisque Rodriguez et Vauclair ne se bagarrent plus. Du coup, l'échappée peut prendre un peu plus de marge, et notamment l'homme de tête, De Marchi. On va retrouver tout de suite Georges sur la moto RMC. Georges.
Oui, à moins de 10 km du sommet de cette ascension du col de Palacchi. Ascension un peu bizarre, hein. Il y a des descentes parfois. Là par exemple on est dans une phase un petit peu plus descendante. C'est sur ce genre de portion tout à l'heure que De Marchi a réussi à creuser un écart sur ce qui sont ses poursuivants et que l'on ne voit plus derrière lui maintenant. Alessandro De Marchi qui poursuit son ascension. Voilà, la route s'élève un petit peu plus. Il fait toujours très chaud, hein. Il n'y a pas beaucoup d'arbres pour donner un peu d'ombre à l'homme de tête dans cette ascension. On voit les fans sur le bord de la route qui sont torse nu, qui ont mis les bobs, qui sont en maillot de bain. C'est nécessaire aujourd'hui pour lutter contre cette chaleur. Donc devant nous, Alessandro De Marchi, les mains sur le cocotte, le maillot n'est pas encore ouvert pour le coéquipier de Peter Sagan qui poursuit son ascension et qui a maintenant creusé un bel écart sur Kadri Bakeland, ce que l'on ne voit pas derrière.
Ah ouais, ils sont en train de discuter d'ailleurs les deux garçons derrière De Marchi, et ils vont tenter de se relancer, mais ça sera compliqué pour ces deux-là. Il est quelle heure? Il est 15h30, c'est l'heure des paris évidemment.
Les paris RMC Tour de France.
Les paris avec Benji, l'homme des paris, le roi des bookmakers. Salut Benji.
Salut Christophe, salut à tous.
Alors, les principaux favoris aujourd'hui pour la victoire d'étape au sommet de Champs-Rousses tout à l'heure.
Eh bien, le principal favori, c'est le maillot jaune, tout simplement. Il s'agit de Vincenzo Nibali qui est coté à 2,50 derrière Joaquin Rodriguez à 4,70, Alejandro Valverde à 7,25 et Pierre Roland à 9,50. L'échappée qui n'a pas spécialement influencé, Christophe, l'avis des bookmakers.
D'accord. De Marchi, c'est pas bon à jouer ça.
De Marchi, il est passé à 26, il était à 100, mais il n'est pas parmi les 10 premiers favoris de l'étape.
Très bien. Cyril, tu as misé sur qui aujourd'hui?
Je sais plus.
Ah ben bravo.
Non, Cyril a joué Joaquin Rodriguez.
D'accord, Rodriguez.
Bah oui, c'est normal que je joue Rodriguez.
Très bien, on verra si Joaquin Rodriguez tout à l'heure est ici, Fred.
Non, je l'ai déjà joué, il s'est fait rejoindre à 300.
Oui, mais ça, c'est un peu le cas depuis le début de ce Tour de France pour toi, mon pauvre Druid. C'est pas ton tour.
C'est pas mon tour, non.
Fred.
Oui, je verrais bien Franck Schleck. Pourquoi pas un invité surprise, le champion du Luxembourg. C'est le cœur qui parle, hein, vous le savez. Franck Schleck et son coup de pédale très esthétique, qui ne représente pas un vrai danger au classement général et que l'on n'a pas beaucoup vu à l'avant de la course depuis le départ du Tour. On entre dans les Alpes et on entre sur un terrain qui devrait lui convenir. Le col de Champs-Roux est assez roulant. Il ne comporte pas trop, en tout cas dans sa partie finale, de fort pourcentage. C'est a priori un col où il pourrait tirer profit d'une éventuelle temporisation entre favoris.
Georges Quirino sur la moto, ton favori pour l'étape du jour.
Alors j'avais parlé de Franck Schleck ce matin également avec les confrères, de démarquer également, j'avais parlé de Lorenz Stendam, mais je vais rester sur Pierre Roland vu que derrière on a vu l'Europcar. Pierre Roland qui aura peut-être droit à un petit bond de sortie à l'avant de la course. Si on doit avoir un Français aujourd'hui, je crois pas que ce soit un Pinot ou un Bardet qu'on ne laissera pas sortir du côté du maillot jaune. Donc Pierre Roland aujourd'hui à Champs-Roux.
D'accord, Pierre Roland pour Georges. Benji, tu nous avais dit qui déjà? Je me souviens plus.
Moi je suis déjà en train de pleurer puisque j'avais donné un coureur qui abandonne. Il y a une heure, j'avais donné Dani Navarro.
Ah oui, Dani Navarro, effectivement.
Oui, le leader.
Et il n'est pas le seul à avoir abandonné ce matin, puisqu'on a appris que l'ancien champion de France, Arthur Vichot, avait également décidé de ne pas. Décider d'abandonner en cours de
bronchite. Bronchite pour Arthur Vichot. Dani Navarro, lui qui avait terminé 9e du général l'an passé, qui est hors de course, tout comme un coureur de l'équipe Garmin, Ranier Acevedo, le Colombien, me semble-t-il. Ça tombe aujourd'hui sur cette 13e étape.
Très bien, moi j'ai donné Thibaut Pinot, donc on verra effectivement, même si Georges le disait à quelques instants, il n'aura pas de bonne sortie, mais sur le final qu'il nous a montré l'autre jour à l'arrivée à la planche de Belleville, je pense qu'il peut peut-être faire quelque chose si évidemment tous les favoris arrivent groupés dans les 2-3 derniers kilomètres.
Oui, c'est une hypothèse plausible, à défaut d'être probable, parce que Thibaut Pinot et Romain Bardet sont à plus de 3 minutes de Vincenzo Nibali. Est-ce que Nibali, le maillot jaune, n'essaiera pas de se ménager certaines alliances en laissant des coureurs et notamment français aller décrocher des lauriers? C'est peut-être une stratégie à envisager.
Très bien, nous verrons ça tout à l'heure. Merci Benji, on se retrouve aux alentours de 19h40 pour faire le point sur les paris du jour.
PMU.fr, paris sportif, paris hippique, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et il reste encore 6 km, un peu moins de 6 km à parcourir avant d'arriver au sommet de ce col de Palaki, premier col des Alpes de ce Tour de France. Et il y en a partout dans la pente, Fred.
Oui, et comme me le faisait à l'instant remarquer Pierre-Yves Leroux, col de Palaki ne profite jamais. Est-ce qu'il profitera à Alessandro De Marchi? Lui, le coureur italien qui pour l'instant tient la dragée haute à la concurrence des Marquis qui est à 5 km du sommet de ce col inédit classé en première catégorie avec des pentes très irrégulières. Georges va peut-être pouvoir nous en parler. Bakeland, c'est à 1 minute de Démarqui. Luis Angel Mate, l'Espagnol de Cofidis, est parti en contre-attaque. Le peloton, lui, est à 2 minutes 20. Effectivement, le peloton qui a décidé de laisser un peu filer Démarqui qui ne représente aucun danger au classement général.
Très bien, on va retrouver Georges sur la moto RMC qui se trouve à l'avant de la course avec l'homme de tête, Georges.
Oui, avec Alessandro De Marchi, maillot vert de la Cannondale sur les épaules, la route qui s'élève encore un peu plus, hein, comme le disait Fred, effectivement la pente est complètement irrégulière, là on est sur du 12-13% sur ces côtés-là de l'ascension, on a eu des gros pourcentages vraiment sur le début de l'ascension, ensuite ça a descendu, on a eu du replat, et là à nouveau la route s'élève de plus en plus, que l'on se rapproche du sommet, il y aura un léger replat au moment où l'on passera le sommet de ce col de Palaki, 5 km. Voilà, il passe à l'instant même Alessandro De Marchi sur devant l'indication indiquant les 5 derniers kilomètres. C'est son directeur sportif qui est venu à sa hauteur tout à l'heure pour lui donner un bidon qu'il n'a pas bu, qu'il a complètement vidé sur sa tête. C'est nécessaire aujourd'hui encore puisque la fournaise, les 34 degrés, eh bien tape fort sur la tête des coureurs et notamment sur l'homme de tête.
Georges, tu vas peut-être me maudire une fois de plus, mais où en est Blaise Kadri qui était en contre-attaque avec Bakkelands? Il a pris un tir, comme disent les coureurs. Il était lancé à la poursuite de Demarchi avec le Belge de l'équipe Omega Pharma. Le vainqueur de l'étape de Gérardmer a, semble-t-il, reculé d'un seul coup.
Je vais te dire où il est pas derrière nous. Ça veut dire qu'il est loin de l'homme de tête. On l'a vu à un moment donné essayer de revenir avec Yann Bakkelands. C'était surtout le Français qui prenait les relais, qui a d'ailleurs même un peu engueulé Yann Bakkelands, qui ne bougeait pas une oreille. Mais il semblait à la limite également Blaise Kadri, quand Demarchi les a doublés tout à l'heure. Il n'a pas pu du tout suivre l'accélération, les fesses sur la selle d'Alessandro Demarchi. Donc il n'est plus derrière nous, Blaise Kadri.
Mais non. Forcément, puisqu'il vient d'être repris, il vient d'être repris par le peloton.
Ressemble à un coup de colère et il a jeté l'éponge.
Alors, d'un autre côté, Cyril, Blaise Kadri a compris que de toute façon, ça n'irait pas au bout, cette histoire-là. Il s'est laissé reprendre par le peloton et pourra. Ah ben non, là, il pourra pas.
Il est largué à l'arrière du peloton désormais. Il avance à moins de 12 km/h. On pourrait trottiner à côté de lui.
C'est vrai que
la pente est très prononcée, 12% de déclivité en ce moment, mais Blaise Kadri a visiblement vidé le réservoir à l'avant de la course. Désormais, il va sagement rejoindre le groupe Eto.
Donc la stratégie n'a pas marché.
Est-ce que c'était véritablement une stratégie ou est-ce qu'il s'est retrouvé à accompagner le coup mais qu'il n'avait pas obligatoirement de bonnes jambes? Encore qu'il a tenté quand même au début de l'ascension de partir. Donc ça veut dire qu'il y croyait un peu. Là maintenant, il faut bien dire que Bakkelands l'a déposé. Il a vu passer Maté à côté de lui, le coureur de la Cofidis, rejoint par le peloton. Je crois que ça l'a surtout lâché très fort dans la tête et qu'il n'a plus qu'un seul objectif, c'est revenir dans aller accompagner l'autobus avec les sprinters. Donc effectivement, en termes de stratégie, il n'aura servi à rien. Mais je l'avais évoqué tout à l'heure, dans la mesure où l'écart au pied du col n'était que de 1 minute, il ne pouvait servir à rien.
Alors, Cyril, juste, il y a un élément à prendre en considération aujourd'hui, qui n'était pas lors des précédentes étapes de montagne, c'est la chaleur. Il fait 34 degrés aujourd'hui, et ça, on sait que certains coureurs n'apprécient pas la chaleur. Je ne sais pas si c'est le cas de Blaise Kadri, mais en tous les cas, il y en a certains qui pourraient avoir des coups de chaud tout à l'heure dans l'ascension vers Champs-Rousses. Hein.
Oui, c'est vrai. À chaque fois qu'on est sur la première étape de montagne dans un grand tour, eh bien il y a de grosses défaillances. Alors elles ne sont pas liées exclusivement à la chaleur. On va dire que la chaleur amplifie et condamne les plus faibles, ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont plus tout à fait tout leur potentiel. Mais au niveau de la course, il est intéressant de regarder ce que font les Astana, qui ont une stratégie qu'on arrive à comprendre. Ils sont tout simplement en train de ralentir au maximum les échappés. Rappelez-vous, le peloton avait à peu près une minute de retard sur les échappés. Là, c'était les équipiers de Beauclerc qui roulaient. Les équipiers de Beauclerc se sont écartés. Et puis, les Astana ont repris la tête du peloton. Or, Os, qui ne roule pas bien vite à l'avant, il a quand même fait une partie d'échappée, a quand même repris 1:40 pratiquement au peloton. Et je trouve que c'est pas mal joué du tout, dans la mesure où plus on laissera des coureurs prendre de l'avance, puisqu'il y a même des contres qui sont sortis, moins dans la dernière ascension, il y aura la bagarre pour la victoire d'étape, restera seulement la bagarre pour le classement général. Ce qui veut dire qu'elle sera moins violente et que quelquefois, quand vous jouez le classement général, vous pouvez aussi jouer la victoire d'étape, c'est-à-dire que vous avez une motivation supplémentaire. Ouais. Donc il est tout simplement en train d'essayer d'aseptiser dans cette première ascension le peloton.
Ah, il est plus bavard qu'avec Jean-René Bernodeau, notre ami.
Non, mais avec Jean-René Bernodeau,
ne me cassez pas les pieds avec ça. Non, mais attendez, arrêtez parce que c'est
bon. On te chante, voilà.
Jacques, sort de ses gonds.
Oui, t'as vu ça?
Ah oui,
c'est nerveux.
Ah,
c'est impressionnant.
Ah, on l'a piqué là.
Il est en train mais attendez, quand Jean-René Vernot lui demandait d'expliquer la statique de demain, il vous parle du Vendée U. Ah, attendez, faut arrêter quoi.
Bon.
Donc, il n'y a rien à dire. Et si vous comprenez quelque chose de la stratégie d'aujourd'hui, j'ai toujours pas compris, celle d'hier non plus, celle de Nancy non plus. Et je suis pas le seul parce que tous les anciens maillots jaunes du Tour de France ou vainqueurs d'étapes sur le Tour de France, on se regarde tous en disant, mais c'est quoi ce bordel quoi.
Allez mon Cyril, tout va bien. 49 km de l'arrivée, nous sommes dans l'ascension du col de Palaki. On va s'arrêter quelques instants. On va vous faire un point complet sur la course dans un instant avec Fred. 49 km de l'arrivée à Champs-Rousses, le col de Palaki et ensuite la grande montée vers Champs-Rousses avec plus de 18 km à escalader sous une température incroyable aujourd'hui, près de 34 degrés. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Allez, nous sommes toujours dans l'ascension du col de Palaki pour cette 13e étape du Tour de France qui conduit les coureurs du peloton vers Champs-Rousses. Ce sera tout à l'heure la deuxième grande ascension du jour avec plus de 18 km à parcourir et une pente moyenne de plus de 9%, de 6% plus exactement. Donc on espère tout à l'heure que la grande bagarre aura lieu pour le classement général. En attendant là, eh bien il n'y a pas de bagarre pour le général, il y a surtout une bagarre pour la victoire d'étape. Tout à l'heure, le peloton était revenu très près des hommes de tête avant le pied du col de Palaki et désormais eh bien, l'écart est en train de grandir. On va retrouver tout de suite Georges Quirino sur la moto.
Oui, on est impressionné par les efforts de Alessandro De Marchi à l'avant de la course et impressionné aussi par sa résistance face à cette chaleur écrasante. Il vient encore d'appeler sa voiture de directeur sportif Alessandro De Marchi pour demander un bidon. On le répète depuis tout à l'heure, plus de 34 degrés là sur cette ascension col de Palaki. Il reste moins de 3 km avant le sommet de cette ascension et on est sur des pentes très élevées, plus de 8% là pour l'Italien qui est un petit peu en train de faiblir et qui a eu besoin de s'hydrater un petit peu pour avoir quelques forces avant d'entamer la descente tout à l'heure. Des arbres vont pouvoir lui donner un petit peu de rondeur dans quelques instants. Voilà, il se remet debout sur ses pédales. Derrière nous, on ne voit toujours pas trace de Jan Bakelands qui est son premier poursuivant.
Ok. Donc De Marchi qui s'envole, le peloton qui ne réagit pas. Sans doute faudra-t-il attendre tout à l'heure l'ascension vers Champs-Rousses. Messieurs, nous sommes en deuil aujourd'hui. Messieurs, dames, nous sommes en deuil aujourd'hui. Et oui, nous sommes en deuil car nous avons perdu une voiture. La célèbre Lucho Mobile qui nous accompagnait depuis le début de ce Tour de France n'est plus. Enfin, elle est encore là, mais elle s'est arrêtée à Saint-Étienne hier soir au détour d'un virage. La Lucho Mobile, eh bien, a rencontré, je ne sais pas, peut-être une bouteille de Mirabelle ou autre chose. En tous les cas, la Lucho Mobile est devenue la Lucho Immobile, ce qui n'empêche pas notre Luc eh bien, de continuer la Lucho Mobile avec une autre Lucho Mobile.
C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.
Ah, bah oui, forcément, elle va marcher beaucoup moins bien. La Lucho Mobile de Luc Leblanc. Ah
bah ouais. En guise d'une Skoda, j'ai une petite bagnole.
Ouais, mais plus solide peut-être.
Avec un autocollant BFM dessus, et il va falloir trouver des autocollants et pour pouvoir se faire reconnaître, quoi.
Bon, si vous avez des autocollants.
J'étais bien triste tout seul dans mon coin aujourd'hui, je peux te le dire.
Ah oui, parce que du coup, tu n'es pas sur la course, Lucho. Tu as pris les chemins de traverse.
J'ai récupéré ici le chemin de la course, parce que bon, c'était pas évident, j'avais pas envie de me perdre pour aujourd'hui. Et je suis à Saint-Martin-d'Uriage, dans un petit restaurant de spécialité savoyarde, et qui s'appelle La Fondue.
Ah, si t'attaques La Fondue maintenant, je pense que la Peugeot, elle n'a plus pour longtemps non plus. Hein.
Alors, je vais appeler le patron Yves, parce qu'il m'a rempli un petit verre. Alors, il va t'expliquer ce que c'est.
Il continue malgré tout.
Non, mais c'est des... Mais attends, quand tu vas voir ça, quand je vais le goûter, tu vas pas en revenir. Alors, je vous présente Yves qui est donc est le propriétaire de La Fondue. Et qu'est-ce que vous m'avez servi, là?
Alors, bonjour, je vous ai servi un verre de Chartreuse. Alors, c'est une liqueur qui fait 50 degrés et qui est fabriquée par les pères Chartreux à Voiron, en hiver, à côté de chez nous, voilà.
Et donc, mis à part la Chartreuse que je vais boire bien volontiers de 50 degrés. Vous avez des spécialités régionales ici?
Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'on vous sert la chartreuse normalement en fin de repas, puisque au préalable, on vous sert une très très bonne fondue, un fromage qui vient d'un fromager de Grenoble, Bernard Muraveau, qui est le champion du monde des fromages. Voilà, donc nous sommes spécialisés en fondue, raclette. Et pour digérer tout ça, on vous sert un bon digestif à 50 degrés, qui est la chartreuse. Voilà.
Alors donc, je vais vous voir en direct une petite chartreuse, parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps.
Et
parce
boum,
que
une deuxième Lucho Mobile en rade.
Donc voilà, alors attends, je bois, on va trinquer ensemble, hein, Yves. Hein. Alors, hein, alors.
Tu m'étonnes qu'il cartonne.
Attendez, là, aussi. Voilà, tiens, regarde, après on va voir la chartreuse. Hein.
À 50 degrés, faudrait la prendre avec beaucoup de modération, mon cher Luc. Hein, parce que 50, c'est tout.
C'est passé de travers. Je vais en boire une deuxième.
Non, stop, passé. Arrête tout. Arrête tout, ça va nous coûter trop cher en location, tu es fou, quoi.
Voilà. Ah ouais, c'est bon, là. Ça, là, je suis à point. Et puis, alors, je vais aller vous chercher un spécialiste de vélo. Il est où, là? Le spécialiste de vélo, il est où? Il est parti ou quoi? Allez, je vais le chercher vite fait là.
Bon, Lucho, rapidement, parce que tu sais qu'il y a une.
Rapidement,
nous sommes dans un col là quand même. Hein.
John, vous êtes un peu français, anglais, qu'est-ce que vous êtes? Un peu français, américain. Français, américain, donc vous suivez le vélo, bien sûr. Voilà, et vous avez bu de la Mirabelle, pas de la Mirabelle, vous êtes dans le nord, mais de la Chartreuse, vous en avez bu tout à l'heure? Tout à l'heure, on l'a bu après avoir mangé. Et bon, alors, dites-moi vite sur le Tour de France, vous avez un favori? Thibier Vingegaard, Rennes. Ouais, mais enfin, il est loin quoi. Il est cinquième. Ouais, et aujourd'hui? Non, pas de favori aujourd'hui.
Lui?
Lui? Ah d'accord, mais alors au final sur le tour.
Pareil.
Donc voilà, Vingegaard de Rennes, vainqueur du tour, vainqueur de l'étape d'aujourd'hui, voilà, en rousse, enfin tout va bien.
Ouais.
Hein, alors, et on va faire une hola. Voilà, tout se passe bien, j'ai 250 degrés dans le
oui,
gosier,
dans
tout va bien les gars,
tout va bien,
vous
ouais.
Inquiétez pas, j'ai la pêche, plus que hier soir j'étais un vrai cadavre.
Ouais, ben les voitures vont te fuir, hein, à force de les casser.
Voilà. Donc,
hein.
Bon, la petite fondue,
tu fais attention, maintenant tu t'arrêtes, tu restes là, tu nous attends pour ce soir. Allez Lucho, on te quitte,
à
tout à l'heure, nous on a une course quand même, hein. On n'est pas là à chasser la musette, ni la canette. 46 km 300 de l'arrivée, nous sommes toujours dans l'attention du col de Palaki, Fred, et toujours cet homme en tête, démarque l'italien.
Oui, le dernier kilomètre d'ascension pour le transalpin de la formation Cannondale, vainqueur du classement de la montagne sur le dernier critérium du Dauphiné, qui est le rescapé de l'échappée matinale du jour. Il reste 46 kilomètres à parcourir avant l'arrivée ici à Champs-Rousses, au terme de la première ascension classée hors catégorie de ce Tour 2014. Des Marquis qui compte à 46 kilomètres de l'arrivée, donc 50 secondes, une minute maintenant même sur le Belge Yann Bakeland sans contre-attaque. Luis Angel Mate, l'Espagnol, est à 1:34. On a Jérôme Pinot à un peu moins de 2 minutes et le peloton maillot jaune avec Vincenzo Nibali et ses Astana à 2 minutes 20. Sachez que Nibali est en train de perdre l'un de ses meilleurs grimpeurs, Michele Scarponi, l'Italien, qui est en train de décrocher du peloton et qui se ravitaille à l'arrière avec, il faut le mentionner, une petite rétro-poussette en récupérant un bidon auprès de son directeur sportif.
Il est terrible ce Fred. Pour ceux que. On ne sait jamais, les commissaires ne l'avaient peut-être pas vu.
Ils le savent. Que les
c'est autorisé.
Que
alors explique-nous ce qu'est une rétro-poussette.
Une rétro-poussette, c'est. Cyril connaît ça encore mieux que moi et Luc sans doute aussi bien. Une rétro-poussette, c'est le coureur qui vient à la hauteur de sa voiture de directeur sportif ou la voiture qui vient à la hauteur du coureur. Le directeur sportif ou le mécano tend un bidon au coureur et le coureur, au lieu de simplement prendre le bidon comme n'importe qui le ferait, eh bien s'appuie sur l'avant du bidon tandis que la main du directeur sportif ou du mécano tient l'arrière et du coup il s'appuie quelques fractions ou même quelques secondes, carrément quelques fractions de secondes ou quelques secondes, et du coup il s'économise quelques calories, pas plus. Il s'autorise parfois un temps de roue libre. C'est triché, mais c'est toléré dans les usages du peloton.
Très bien. Nos internautes et nos auditeurs sont très inquiets pour Lucho. Platoche nous dit une chartreuse pour Luc Leblanc, mais avec cette chaleur, il va pas tenir. Ou Letty Chris qui nous dit, mais Lucho va finir alcoolique. Faites quelque chose, les gars. On essaye, Letty Chris, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas. Il est intenable et les voitures subissent évidemment le contre-coup de cet état terrible de Luc Leblanc. Le sommet avec l'homme de tête et Georges Quirino sur la moto RMC.
Oui, à l'instant même, Alessandro De Marchi qui vient de passer au sommet de ce col de Palaki, qui bascule dans la descente, les derniers hectomètres de cette ascension qui était très roulant. Hein. C'est là où les pourcentages étaient peut-être les moins importants. Par contre, une présence très importante de public dans le sommet de cette ascension. Un public torse nu, évidemment, à cause de la chaleur. Et on a vu, Christophe, les premières engueulades de Christian Prudhomme, le directeur du Tour, contre des spectateurs qui couraient à côté de l'homme de tête. Hein. On le répète chaque année, évidemment, il ne faut pas courir à côté des coureurs pour les déranger. On a basculé dans la descente désormais derrière l'homme de tête, à fond dans la traversée de Sapé en Chartreuse. Ça va lui donner un petit peu d'air après avoir pris la fournaise dans cette ascension. Il va aller à toute vitesse pour se rafraîchir. Alessandro De Marchi toujours en tête.
Et dans le peloton, Fred, ça se passe comment? Est-ce que le train est toujours emmené par les Astana?
Oui, les Astana qui chassent derrière Alessandro De Marchi. Je ne sais pas où Georges est, mais à mon avis, Georges, tu es derrière l'homme de tête des Marquis dans la descente.
Oui, oui, on est juste derrière l'homme de tête. Tout
alors,
après.
En contre-attaque, Yann Bakelands pointe à 1 minute 15. Le Belge de l'équipe Omega Pharma est en train de maintenir
de
maintenir son écart. Absolument, il vient de changer. C'est une image assez rare, assez surprenante de voir un coureur changer de vélo au sommet, au passage au col. Parfois, on a des changements de vélo au pied d'un col pour avoir un vélo un brin plus léger, un brin plus rigide, avec des roues moins hautes, des jantes moins hautes ou des braquets un peu mieux adaptés. Cyril, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi Yann Bakelands a changé de vélo auprès d'un soigneur qui était là? Le coup était préparé. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une nouvelle mode qui est en train de naître dans le peloton de changer de vélo au passage au col?
Alors, point 1, logiquement, ça s'appelle un dépannage par l'avant qui est interdit réglementairement.
Oh, la balance!
À moins que le règlement ait changé. Mais je pense pas que ce soit une voiture de... Non, c'est sa non, deuxième
c'est un,
voiture.
C'est un soigneur qui est là. C'est un soigneur.
La moto, Georges veut nous dire quelque chose.
Donc c'est pas un changement de vélo pour incident mécanique. Ça s'apparente quand même à un changement de vélo irrégulier.
Georges,
alors pour quelle raison je n'en sais rien.
Vélo, on a vu, ça a été bien réfléchi en tout cas. Ça nous a interpellé parce que on avait vu la voiture de David Ebramati, le directeur sportif Omega Pharma Quickstep, se porter à l'avant de la course. On s'est dit, Bakelands est en train de revenir. Alors que pas du tout, il s'énervait, il voulait vraiment prendre de l'avance et s'arrêter. On l'a vu s'arrêter au sommet, on n'avait pas compris. Et vraiment sortir rapidement de la voiture pour se diriger sur le côté droit et enlever ce vélo. Donc ça a été bien réfléchi, en tout cas du côté de chez Omega Pharma Quickstep.
Donc c'est bien son directeur sportif qui l'a dépanné, voilà. Cyril, dans ces cas-là, c'est autorisé très brièvement?
Logiquement, non, ça non, ne l'était d'accord. pas. Il faudrait revoir les règlements s'ils n'ont pas été modifiés ces quelques dernières semaines.
Allez messieurs, on se quitte quelques instants. Il y a les infos tout de suite de 16h. Alors que Luis Andrés Maté a failli faire un tout droit dans un virage là, mais il a réussi à rectifier sa trajectoire au dernier moment. Dans un instant, les infos de 16h, on revient juste après. Le peloton qui est passé avec un retard de 2,45 sur l'homme de tête au sommet du col de Palaki. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.